Vous avez des questions?
Je suppose qu'on ne connaît pas le taux de prêt de la BCE aux banques
commerciales. Si, pour le coup, on le connaît. C'est le fameux 0,75% actuel. Non, ça, c'est quelque chose qui est connu.
C'est le taux qui correspond à quoi, ce taux?
Ben, c'est le taux que la Banque centrale fixe. C'est le taux que la Banque centrale fixe. C'est-à-dire que si elle veut que très peu de banques puissent obtenir de l'argent, ben, elle met des taux très élevés. Et puis si elle veut au contraire que davantage de banques viennent au guichet pour pouvoir ensuite la prêter à leurs clients, ben, elle met des taux plus faibles. Donc ça, non, pour le coup, la transparence sur ce coût-là est la plus grande possible. Quoi.
Oui.
S'il y avait une zone de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe, est-ce que ça changerait complètement la politique monétaire de chacun des deux côtés?
On peut imaginer théoriquement que oui, et en même temps pratiquement que non, parce que en réalité, les droits de douane entre les États-Unis et l'Europe sont déjà extrêmement faibles. Alors c'est compliqué de donner des idées. Une vue d'ensemble, parce que ce qu'on est capable de faire, c'est calculer un droit de douane moyen, par exemple. On est capable de dire, sur l'ensemble des produits qui sont échangés, enfin qui arrivent aux frontières de l'Europe, globalement, les droits de douane sont à peu près de 4%, ce qui est très très faible. Cela dit, ces 4%, et je crois que c'est 3,5% aux États-Unis, hein, ce qui est à nouveau très très faible, mais ces 4%, ils cachent en réalité des produits pour lesquels les droits de douane peuvent être éventuellement très élevés, et puis d'autres pour lesquels ils sont quasiment inexistants. Donc de manière très très agrégée, une zone de libre-échange qui consisterait à dire qu'il n'y a plus du tout de droits de douane, elle ne changerait pas grand-chose. Elle pourrait changer la situation peut-être pour quelques secteurs qui, jusqu'à présent, avaient des droits de douane relativement élevés, mais qui sont des secteurs qui pèsent très peu individuellement. Pour le secteur, ce serait important, mais pour l'ensemble de l'économie, ça serait très faible. Donc, en termes de politique monétaire, il n'y aurait pas de changement très important à attendre. En matière de... Je sais qu'on en parle, les Américains évoquent la question, mais... Le gros des avancées a déjà été tellement fait en la matière qu'il n'y a pas grand-chose à attendre.
Oui. Peut-on dire que la BCE est d'inspiration libérale
aujourd'hui? Oui. On peut le dire pour...
Monétariste, oui, en ce sens que... Enfin, de ce point de vue-là, toutes les banques centrales sont un peu monétaristes. Les banques centrales, elles ont comme... en ce sens, et je vais développer un peu mon argument, mais en ce sens que les banques centrales ont toutes dans leur... outil théorique le fait que si on distribue trop de crédit dans une économie, si on met trop de monnaie dans une économie, ça finira par faire de l'inflation. D'accord ? Ça, c'est le credo monétariste premier. Milton Friedman, c'était son grand truc. Distribuer trop de monnaie dans une économie, c'est finalement, in fine, le seul résultat qu'on obtiendra, c'est faire trop d'inflation. Donc, de ce point de vue-là, toutes les banques centrales ont le schéma monétariste en tête quand elles disent on va augmenter les taux d'intérêt de sorte à calmer les pressions inflationnistes. Après, ce qui peut éventuellement se passer, c'est est-ce qu'on doit faire de cette maîtrise de l'inflation un objectif absolument prioritaire, ou est-ce qu'on doit faire de cet objectif de la maîtrise de l'inflation un objectif parmi d'autres? Et c'est exactement, par exemple, ce qui oppose la Banque centrale européenne à la Réserve fédérale américaine. La Banque centrale européenne a l'objectif largement prioritaire, c'est écrit en petit après, une fois qu'on a bien maîtrisé l'inflation, on peut faire ceci et cela, sauf qu'en réalité, le vrai objectif de la Banque centrale européenne, c'est de maintenir la stabilité des prix. Donc, effectivement, ça donne une inspiration monétariste un peu plus forte auprès de la Banque centrale européenne, parce que tant que des pressions inflationnistes demeurent, le mandat, normalement, de la Banque centrale européenne, ce serait de dire, eh bien, écoutez, moi, tant qu'il y a encore un peu d'inflation à venir, moi, je suis désolé, mais je ne peux rien faire pour le chômage. Alors que la Réserve fédérale américaine va mettre les deux objectifs en balance, et va dire, bah écoutez, oui, effectivement, là, l'inflation est peut-être passée de 3,5% à 4%, mais il se trouve que pendant le même temps, le chômage est passé de 6 à 9, bah, désolé, mais je m'occupe du chômage, quoi. Et l'inflation, on verra ça plus tard. Et effectivement, il n'y a pas cette possibilité dans les mandats de la Banque centrale européenne. Ce qui, probablement, on a parlé d'indépendance, je ne l'ai pas mentionné quand il en a été question, mais ce qu'il ne faut aussi pas perdre de vue, c'est que la Banque centrale européenne est la banque centrale la plus indépendante du monde. En ce sens qu'on définit 2 degrés d'indépendance. On définit ce qu'on appelle l'indépendance d'instrument et l'indépendance d'objectif. L'indépendance d'instrument, c'est vous avez un objectif et vous faites comme vous voulez pour y parvenir. Vous pouvez utiliser le taux d'intérêt, vous pouvez imposer des comportements particuliers auprès des banques commerciales, vous faites ce que vous voulez, mais il faut que vous parveniez à votre objectif. Ça, c'est l'indépendance d'instrument. L'indépendance d'objectif, c'est vous vous fixez vous-même votre objectif. Et c'est ça qu'a la Banque Centrale Européenne. C'est presque ça qui est le plus extrême dans les statuts de la Banque Centrale Européenne. C'est que dans le traité de Maastricht, on a confié à la Banque Centrale Européenne un mandat extrêmement vague qui est de maintenir la stabilité des prix. OK. Qu'est-ce que c'est que maintenir la stabilité des prix ? Je pense qu'on pourrait demander aux personnes qui sont dans la salle ici, on aurait 10 avis différents sur ce que veut dire maintenir la stabilité des prix. Donc de cet objectif très général, la Banque Centrale Européenne s'est auto-attribuée un objectif pratique qui est de dire, bon ben OK, pour moi, la stabilité des prix, c'est 2%. D'accord ? On aurait pu imaginer plein d'autres trucs. Hein. Ça aurait pu être 4%, ça aurait pu être 0, ça aurait pu être de dire même que le niveau des prix ne devait jamais bouger, c'est-à-dire que si jamais la baguette de pain passait de 1,05 à 1,20 demain, je vais mettre une politique monétaire en place de sorte à ce qu'elle revienne à 1,05. On aurait pu imaginer plein de choses. Ça aurait été ça aussi, la stabilité des prix. La Banque Centrale Européenne a cette indépendance extrêmement forte qui est que c'est elle-même qui se fixe ses objectifs. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, ça introduit un biais assez fort dans le suivi des préconisations du courant monétariste. Mais en même temps, quand on regarde empiriquement comment se comporte la Banque Centrale Européenne, on voit qu'elle n'est pas tout aussi, elle n'est pas aussi insensible qu'on pourrait le croire à l'économie réelle. Quand on regarde dans des régressions économétriques, on voit bien qu'effectivement le chômage a l'air de guider ses préoccupations. Alors peut-être insuffisamment, peut-être que la priorité à l'inflation est trop forte, mais malgré tout, elle regarde un peu le chômage, ne serait-ce que parce que c'est un indicateur avancé de l'inflation, quoi. Si le chômage augmente très fortement, ça veut dire que les pressions inflationnistes vont baisser, quoi. Ça veut dire que si le chômage est élevé, ça va être difficile de demander des augmentations de salaire. Donc les coûts du travail vont augmenter relativement peu, donc les coûts de production vont augmenter peu. Donc au contraire, si le chômage devient très très faible, eh bien on peut imaginer que le coût du travail va augmenter et que donc l'inflation va augmenter. Donc ne serait-ce que pour ça, elle va regarder un peu le chômage, mais elle le fait au moins de manière détournée. Mais c'est vrai qu'elle a c'est l'héritage de la banque. De toute façon, c'est la Bundesbank au niveau européen, la BCE, rien de plus. Hein. Donc l'inspiration monétariste, elle est évidente.
Oui.
Avec toutes les difficultés que l'on voit, est-ce que c'était finalement une bonne idée de mettre en place l'euro ? On voit que tout est. Il n'y a aucune flexibilité. Toutes les difficultés que vous avez, on
ne
voit pas comment
elles pourront être résolues. Je ne sais pas si vous avez assisté à la conférence de Patrick Artus il y a un mois et demi. Là, l'idée, c'est que on s'est probablement arrêté au mauvais endroit, quoi. Là, on est absolument pile au milieu du guet. C'est-à-dire qu'on est dans la situation où, théoriquement, on sait ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire que ça passe par davantage d'intégration, en particulier budgétaire. D'accord ? Ça, c'est évident. Que la seule issue théorique, c'est faire en sorte que les budgets européens soient un peu plus coordonnés. Enfin, un peu plus, c'est un peu litote. Hein. Soient davantage intégrés, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte qu'il y ait des mécanismes de transfert qui soient mis en place, il faut qu'il y ait une certaine forme de contrôle des politiques budgétaires nationales qui soient mises en place, parce que sinon, effectivement, c'est pas tenable. Alors après, donc on est pile au milieu du guet, quoi. Alors, le reproche, il me semble, qui peut être fait aux promoteurs du projet européen au début des années 90, c'est de ne pas l'avoir expliqué, ça. Il me semble que si on avait expliqué aux gens qui ont dû approuver par référendum le traité de Maastricht en 92, si on leur avait dit « Oui, ce qu'on vous propose là, c'est une monnaie unique, donc oui, vous pourrez aller passer vos week-ends à Rome sans changer vos francs contre des lires, vous allez voir, c'est super. Et oui, les entreprises vont pouvoir vendre plus facilement des biens dans toute l'Europe, faisant disparaître le risque de change, parce que c'est ça qu'on a dit. Si on avait dit en plus, oui, mais en plus de ça, il y a une espèce de petit astérisque qui est qu'à terme, il est évident que ce n'est qu'un premier pas vers davantage d'intégration. D'accord ? Eh bien, je ne sais pas si le résultat du référendum aurait été exactement le même. Je ne peux pas me... Je ne suis pas sûr de pouvoir me prononcer sur ce thème, mais il n'est pas évident que le résultat aurait été exactement le même, parce que je crois que les enjeux ont vraiment été très très mal présentés. Et quand on entend, je crois que j'ai entendu Jacques Attali à la fin de l'année dernière nous expliquer que lui, il le savait, alors pourquoi il ne nous l'a pas dit, déjà, premièrement, et puis que c'est une évidence que l'euro devait intégrer plus d'intégration, je ne crois pas avoir entendu une seule fois à l'époque, qu'il fallait engendrer, qu'il fallait s'attendre à cette dynamique. Donc, est-ce que l'euro est une bonne chose dans sa forme actuelle? À l'évidence, non. Dans sa forme actuelle, à l'évidence, non, parce qu'on est pile là où il ne faudrait pas être. Ou bien, il ne fallait pas le faire, et on restait sur le régime monnaie commune, éventuellement, et donc on ne mettait pas en place tous ces phénomènes d'intégration, ou bien on acceptait le projet européen, mais dans ce cas, on le menait jusqu'au bout. Donc, dire que l'euro était une mauvaise idée, si le projet européen, c'était l'euro dans sa forme actuelle, oui, c'était une mauvaise idée. Si l'euro, c'était le projet européen avec l'euro comme première étape vers une intégration fédérale, là, pour le coup, on ne sait pas. Enfin, moi, je suis pas... j'ai pas de boule de cristal pour savoir ce qui serait passé si on avait exactement une Europe intégrée budgétairement. Mais dans sa forme actuelle, clairement, ce n'est pas une bonne idée.
Là, enfin, c'est difficile d'être plus clair. Oui.
Pour faire suite à cette question, est-ce que pour les pays qui ont refusé de rentrer dans l'euro, bien qu'ils remplissent les conditions, enfin, je ne parle pas d'Angleterre, à part, mais les pays d'Europe du Nord, le Danemark, la Suède, est-ce que finalement, pour eux, il n'y a pas que des avantages à être resté dans cette situation?
C'est vrai, mais en même temps, leur situation est ambiguë en ce sens que ils sont pas dans l'euro, mais en profitent. C'est-à-dire que non mais c'est exactement le rôle du passager clandestin. Donc c'est-à-dire que si tout le monde avait voulu être passager clandestin, il n'y aurait pas eu d'euro. Donc en gros, ils profitent d'une situation, enfin leur relative bonne, parce que leur relative bonne santé n'est due au fait que certains ont adhéré au projet européen. Donc c'est difficile de dire. Eh bien, vous voyez, il suffisait de ne pas faire d'euro et puis on se retrouverait dans la situation de la Suède. Ben non. Parce que si on n'avait pas fait l'euro, la Suède ne serait pas dans cette situation-là. Et on peut dire exactement la même chose du Canada, par exemple, on peut dire la même chose du Mexique, d'une certaine forme de manière. On voit bien, effectivement, la santé des petits pays périphériques, des grosses zones monétaires, a l'air d'être relativement moins mauvaise que les autres. Mais elle est moins mauvaise parce qu'il existe la zone centrale à côté de chez eux. Donc, prendre l'exemple de la Suède, regardez la Suède, franchement, c'est ça qu'il fallait faire. Ben non, parce que si on avait tous fait comme la Suède, ben, la Suède, elle ne serait pas là où elle est. Donc, c'est compliqué de dire que l'exemple de ceux qui ont choisi de rester en dehors peut justifier qu'il n'aurait pas fallu monter dans le bateau.
Et vous pouvez, s'il vous plaît, préciser la position du Royaume-Uni, alors qu'il ne veut pas adhérer à l'euro, pour quelles raisons précises, du mal que je ne peux pas comprendre.
Le Royaume-Uni a une position très pragmatique sur tous les enjeux européens, c'est-à-dire que tant que c'est bon, ils y vont. D'accord ? Et de ce point de vue-là, le Royaume-Uni a eu longtemps raison de ne pas participer au projet européen, en ce sens que, une fois de plus, c'était très pragmatique. Tous les ans, le gouvernement britannique publiait un rapport sur l'état de la convergence entre l'économie du Royaume-Uni et l'économie du reste de l'Europe. Et pendant très longtemps, ils n'avaient même pas de mauvaise foi à mettre en avant. Il suffisait de regarder l'évolution des cycles économiques et de voir que l'économie britannique était bien plus calquée sur le cycle économique américain que sur le cycle économique européen, par exemple. Et donc, ça aurait été complètement idiot de leur part de se mettre dans l'euro, c'est-à-dire que de prendre le risque d'aller bien quand les pays européens allaient mal et d'aller mal quand les pays européens allaient bien. Ils n'auraient jamais eu la bonne politique monétaire. Jamais. Donc, de ce point de vue-là, leur choix initial était très pragmatique. Alors après, il est évidemment teinté d'un euroscepticisme relativement fort, mais sur le début, rien à dire. Maintenant, la situation est un petit peu différente, parce que déjà, la synchronisation des cycles entre les États-Unis et l'Europe, c'est assez bien faite. Donc, de fait, l'Angleterre s'est retrouvée pas trop mal synchronisée avec le reste de l'Europe. Et de fait, l'Angleterre, maintenant, peut faire valoir ses arguments de passagers clandestins, pas seulement en termes de conjoncture économique, mais en termes de spécialisation. Enfin, la place financière de Londres ne serait peut-être pas la place financière de Londres si elle était au sein de l'Europe, quoi. Et comme la finance, le secteur bancaire, le secteur financier occupe un poids important en Angleterre, au Royaume-Uni, il est assez compréhensible qu'il reste en dehors. Donc l'idée de dire que les Anglais sont foncièrement eurosceptiques, c'est sans doute pas faux, mais c'est aussi probablement dicté par des vraies considérations pragmatiques. C'est-à-dire qu'à un moment, ils n'étaient clairement pas dans les clous. Cela dit, le pari des pays européens qui se sont engagés dans l'euro, ça a été de dire qu'en se mettant dans l'euro, on sera tous dans les clous, quoi. Donc les Anglais ont choisi de rester en dehors. Bon, pour l'instant, je crois pas que ça leur... Ils n'ont pas de raison de s'en vouloir, pour l'instant. C'est ça qui est peut-être le plus... le plus dommageable pour l'euro en général. Eh bien, je vous remercie beaucoup.